Cheval de guerre, chapitre 13. Ainsi donc, Topthorn aborda le printemps gravement affaibli par sa maladie et toujours avec une toux rauque. Mais il avait survécu. Tous les dieux, nous avions survécu. On avançait à présent sur un sol ferme, l'herbe repoussée dans les champs en sorte que nous commençâmes à nous remplumer. Notre robe perdit son aspect lépreux de l'hiver et retrouva son lustre sous le soleil. Un soleil qui luisait aussi sur les soldats, dont les uniformes gris et rouges demeuraient plus propres. Ils se rasaient plus souvent à présent, et comme à chaque printemps, ils se remettaient à parler de la fin de la guerre, de chez eux, disant qu'avec la prochaine attaque, tout serait fini, et qu'ils reverraient bientôt leur famille. Ils étaient plus heureux, donc, ils nous traitaient beaucoup mieux. Même les rations s'améliorèrent comme le temps, et notre attelage se remit en route avec une décision et un enthousiasme nouveaux. Les bobos disparurent de nos jambes, tous les jours nous avions le ventre plein, toute l'herbe que nous étions capables de manger et de l'avoine en abondance. Derrière nous, les deux petits Halflinger s'époumonaient et s'ébrouaient. Ils nous firent honte à Topthorn et à moi et nous forcèrent à prendre le galop, chose dont nous avions été incapables tout l'hiver, et nos cavaliers s'étaient pourtant évertués à nous y inciter de leur fouet. Notre santé retrouvée, l'optimisme des soldats qui chantaient et sifflaient, tout cela nous mit à nouveau d'humeur exubérante, tandis que nous roulions nos canons par les chemins défoncés pour les amener en position. Mais il était dit que cet été-là, il n'y aurait pas de combat pour nous. Toujours des coups de feu et des obus sporadiques, oui, mais des deux côtés on se contentait apparemment de montrer les dents et de se menacer sans jamais en venir aux prises. Plus loin, nous entendions, bien sûr, d'un bout à l'autre du front, la fureur renouvelée de l'offensive de printemps, mais on n'eut pas besoin de nous pour nous déplacer nos pièces et nous passâmes l'été dans une paix relative, un peu en retrait des lignes. L'oisiveté, l'ennui, même s'instaurèrent, tandis que nous restions à brouter l'herbe grasse des prés remplis de boutons d'or, et pour la première fois depuis notre arrivée à la guerre, nous nous mîmes même à engraisser. C'était peut-être parce que nous étions trop gros qu'on nous désigna, Topthorn et moi, pour tirer la charrette de munitions du terminus du chemin de fer, situé à quelques kilomètres jusqu'aux positions d'artillerie. Nous nous retrouvâmes ainsi sous les ordres du bon soldat âgé qui avait été tellement chic pour nous durant tout l'été. Tout le monde l'appelait Friedrich le Fou. On le croyait fou parce qu'il parlait tout seul sans discontinuer et que même lorsqu'il ne parlait pas, il riait aux éclats de quelques plaisanteries personnelles que jamais il ne partageait avec personne. Friedrich le Fou, c'était le vieux soldat à qui on assignait les tâches dont personne ne voulait, parce qu'il était toujours prêt à rendre service et tout le monde le savait. Dans la chaleur et la poussière, le travail était rude et ennuyeux. Il nous fit perdre rapidement notre poids superflu et recommença à miner nos forces. La charrette était toujours trop lourde à tirer parce que, malgré les protestations de Friedrich, les gars du chantier d'embarquement insistaient toujours pour charger autant d'obus que possible. Ils lui riaient bel et bien au nez, ne faisaient pas attention à lui et continuaient à empiler leurs obus. Quand on retournait à nos positions, Friedrich montait toujours les côtes à pied, nous conduisant lentement car il savait, lui, comme le chariot devait être lourd. Nous faisions fréquemment halte pour nous reposer, nous abreuver et s'assurer bien que nous avions davantage à manger que les autres chevaux qui, durant tout l'été, demeurèrent au repos. Nous finîmes par attendre avec impatience chaque matin où Friedrich venait nous chercher dans notre champ et nous mettait le harnais. Nous laissions derrière nous le bruit et l'agitation du camp. Nous découvrîmes bientôt que Friedrich n'était pas le fou le moins du monde, mais simplement que c'était un homme bon et doux dont tout l'être criait sa révolte d'avoir à combattre dans une guerre. Tandis que nous allions notre bonhomme de chemin vers le chantier d'embarquement, il nous confia que tout ce qu'il désirait s'était retourné à sa boucherie de Schleinden, et que s'il parlait tout seul, c'est parce qu'il était le seul à se comprendre et même à vouloir écouter ce qu'il disait. « Si je ris tout seul, ajoutait-il, c'est que je pleurerais si je ne riais pas. » Un jour, il nous déclara « Moi, je vous le dis, mes amis. Je vous dis que je suis le seul homme sain d'esprit de ce régiment. C'est les autres qui sont fous, mais ils ne le savent pas. Ils font la guerre et ils ne savent pas pourquoi. C'est pas de la folie, ça ?» Comment un homme peut-il en tuer un autre sans vraiment savoir pour quelle raison, si ce n'est qu'il porte un uniforme d'une autre couleur et parle une langue différente? Et c'est moi qu'on trouve fou? Vous deux, vous êtes les seules créatures raisonnables que j'ai rencontrées dans cette guerre absurde. Comme moi, la seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est qu'on vous y a amené. Si j'avais le courage, je ne l'ai pas. On filerait par cette route et on ne reviendrait jamais. Mais dans ce cas-là, je serais fusillée quand on m'attraperait et ma femme et mes enfants, mon père et ma mère en porteraient la honte à tout jamais. Les choses étant ce qu'elles sont, je vais me faire passer pour Friedrich le Fou jusqu'à la fin de la guerre, comme ça, je pourrai retourner à Schlieden et redevenir Friedrich le Boucher, que tout le monde connaissait et respectait avant que cette merde ait commencé. Il devint visible au fil des semaines que Friedrich prenait d'une affection particulière pour Topthorne. Sachant qu'il avait été malade, il lui consacrait plus de temps et d'attention. Il soignait la moindre petite blessure avant qu'elle puisse se développer et rendre la vie inconfortable à Topthorne. Il était également gentil pour moi, mais je crois qu'il n'eut jamais le même attachement à mon égard. Il était remarquable que souvent il prenait un peu de recul, rien pour que contempler Topthorne avec des yeux brillants d'amour et d'admiration. Apparemment, il existait entre eux une complicité totale, une complicité entre deux vétérans. L'été laissa lentement la place à l'automne, il devint clair alors que notre vie avec Friedrich tirait à sa fin. Mais à présent, son attachement à Topthorne était tel qu'il se porta volontaire pour le monter durant l'entraînement à l'attelage au canon qui devait précéder la campagne d'automne. Naturellement, tous les canonniers rirent de cette proposition, mais ils étaient toujours à court de bons cavaliers. D'ailleurs, personne ne niait qu'il était bon cavalier, si bien que nous retrouvâmes encore une fois chevaux de tête avec Friedrich le Fou qui montait Topthorne. Nous avions enfin trouvé un ami véritable, quelqu'un à qui nous fier sans réserve. Si je dois mourir ici, loin de chez moi, confia un jour Friedrich à Topthorne, j'aimerais autant que ce soit à côté de toi. Mais je fais faire mon possible pour qu'on s'en tire tous et qu'on rentre chez nous. Je te promets au moins ça.